Pierre Loti, Chagrin d'un vieux forçat. C'est une bien petite histoire qui m'a été contée par Yves, un soir où il était allé en rade conduire avec sa canonnière une cargaison de condamnés au grand transport en partance pour la Nouvelle-Calédonie. Dans le nombre se trouvait un forçat très âgé, 70 ans pour le moins, qui emmenait avec lui tendrement un pauvre moineau dans une petite cage. Yves, pour passer le temps, était entré en conversation avec ce vieux, qui n'avait pas mauvaise figure, paraît-il, mais qui était accouplé par une chaîne à un jeune monsieur ignoble, gouailleur, portant lunettes de myope sur un mince nez blême. Vieux coureur de grand chemin, arrêté en 5e ou 6e récidive pour vagabondage et vol, il disait « Comment faire pour ne pas voler quand on a commencé une fois et qu'on n'a pas de métier, rien, et que les gens ne veulent plus de vous nulle part? Il faut bien manger, n'est-ce pas? Pour ma dernière condamnation, c'était un sac de pommes de terre que j'avais pris dans un champ avec un fouet de roulier et un giromont. Est-ce qu'on n'aurait pas pu me laisser mourir en France, je vous demande, au lieu de m'envoyer là-bas, si vieux comme je suis ?» Et tout heureux de voir que quelqu'un consentait à l'écouter avec compassion, il avait ensuite montré à Yves ce qu'il possédait de précieux au monde, la petite cage et le moineau. Le moineau apprivoisé, connaissant sa voix, et qui pendant près d'une année en prison avait vécu perché sur son épaule. Oh, ce n'est pas sans peine qu'il avait obtenu la permission de l'emmener avec lui en Calédonie. Et puis après, il avait fallu lui faire une cage convenable pour le voyage, se procurer du bois, un peu de vieux de fil de fer et un peu de peinture verte pour peindre le tout et que ce fût joli. Ici, je me rappelle textuellement ces mots d'Yves. Pauvre moineau, il avait pour manger dans sa cage un morceau de ce pain gris qu'on donne dans les prisons. Et il avait l'air de se trouver content tout de même. Il sautillait, comme n'importe quel autre oiseau. Quelques heures après, comme on accostait le transport et que les forçats allaient s'y embarquer pour le grand voyage, Yves, qui avait oublié ce vieux, repassa par hasard près de lui. « Tenez, prenez-la, vous, lui dit-il, d'une voix toute changée, en lui tendant la petite cage. Je vous la donne, ça pourra peut-être vous servir à quelque chose, vous faire plaisir. »« Oh non, certes, remercia Yves, il faut l'emporter, au contraire, vous savez bien. Ce sera votre petit compagnon, là-bas. »« Oh, reprit le vieux, il n'est plus dedans. » « Vous ne saviez donc pas, il n'y est plus !» Et deux larmes d'indicible misère lui coulaient sur les joues. Pendant une bousculade de la traversée, la porte s'était ouverte, le moineau avait eu peur, s'était envolé et tout de suite était tombé à la mer à cause de son aile coupée. Oh, le moment d'horrible douleur! Le voir se débattre et mourir, entraîné dans le sillage rapide, et ne pouvoir rien pour lui. D'abord, dans un premier mouvement bien naturel, il avait voulu crier, demander du secours, s'adresser à Yves, lui-même le supplier. Élan, arrêté aussitôt par la réflexion, par la conscience immédiate de sa dégradation personnelle. Un vieux misérable comme lui, qu'est-ce qui aurait pitié de son moineau ? Qu'est-ce qu'il voudrait seulement écouter sa prière? Est-ce qu'il pouvait lui venir à l'esprit qu'on retarderait le navire pour empêcher pêcher un moineau qui se noie et un pauvre oiseau de forçat? Quel rêve absurde! Alors il s'était tenu silencieux à sa place, regardant s'éloigner sur l'écume de la mer le petit corps gris qui se débattait toujours. Il s'était senti effroyablement seul maintenant pour jamais, et de grosses larmes, des larmes de désespérance solitaire et suprême, lui broyaient la vue, tandis que le jeune monsieur à lunettes, collègue de chaîne, riait de voir un vieux pleurer. Maintenant que l'oiseau n'y était plus, il ne voulait pas garder cette cage, construite avec tant de sollicitude pour le petit mort. Il l'attendait toujours à ce brave marin, qui avait consenti à écouter son histoire, désirant lui laisser ce lait avant de partir pour son long et dernier voyage. Et Yves, tristement, avait accepté le cadeau, la maisonnette vide, pour ne pas faire plus de peine à ce vieil abandonné, en ayant l'air de dédaigner cette chose qui lui avait coûté tant de travail. Je crois que je n'ai rien surrendre de tout ce que j'avais trouvé de poignant dans ce récit, tel qu'il me fut fait. C'était le soir, très tard, et j'étais prêt de m'en aller dormir. Moi qui, dans la vie, ai regardé sans trop m'émouvoir pas mal de douleurs, à grand fracas, de drames, de tueries, je m'aperçus avec étonnement que cette détresse sénile me fendait le cœur et irait même jusqu'à troubler mon sommeil. S'il y avait moyen, dis-je, de lui en envoyer un autre. Oui, répondit Yves, j'avais bien pensé à cela, moi aussi, chez un oiseleur, lui acheter un bel oiseau et le lui porter demain avec la pauvre cage, s'il en est encore temps avant le départ. Un peu difficile. Il n'y a du reste que vous-même qui puissiez obtenir d'aller en rade demain matin et de monter à bord du transport pour rechercher ce vieux dont je ne sais pas le nom. Seulement, on va trouver cela bien drôle. Oh oui, en effet, pour ce qui est d'être trouvé drôle, il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Et un instant, tout au fond de moi-même, je m'amusais de cette idée, riant de ce bon rire intérieur qui, à la surface, paraît à peine. Cependant, je n'ai pas donné suite au projet. Le lendemain, à mon réveil, la première impression envolée, il m'a semblé enfantin et ridicule. Ce chagrin-là, évidemment, n'était pas de ceux qu'un simple jouet console. Pauvre vieux forçat, seul au monde, le plus bel oiseau du paradis n'eut pas remplacé pour lui l'humble moineau grisâtre à ailes coupées, élevé au pain de prison, qui avait su réveiller les tendresses infiniment douces et les larmes au fond de son cœur endurci à moitié mort. Pierre Loti, viande de boucherie. Au milieu de l'océan Indien, un soir triste, où le vent commençait à gémir. Deux pauvres bœufs nous restaient de 12 que nous avions pris à Singapour pour les manger en route. On les avait ménagés, ces dolciers, parce que la traversée se prolongeait, contrariée par la mousson mauvaise. Deux pauvres bœufs étiolés, amaigris, pitoyables, la peau déjà usée sur les saillies des eaux par les frottements du roulis. Depuis bien des jours, ils naviguaient ainsi misérablement, tournant le dos à leur pâturage de là-bas où personne ne les ramènerait plus jamais, attachés court par les cornes à côté l'un de l'autre et baissant la tête avec résignation chaque fois qu'une lame venait inonder leur corps d'une nouvelle douche si froide. Le morne, ils ruminaient ensemble un mauvais foin mouillé de sel. Bêtes condamnées, rayées par avance, sans rémission du nombre des bêtes vivantes, mais devant encore souffrir longuement avant d'être tuées, souffrir du froid, des secousses, de la mouillure, de l'engourdissement, de la peur. Le soir dont je parle était triste particulièrement. En mer, il y a beaucoup de ces soirs-là, quand de vilaines nuées livides traînent sur l'horizon où la lumière baisse, quand le vent enfle sa voix et que la nuit s'annonce peu sûre. Alors, à se sentir isolé au milieu des eaux infinies, on est pris d'une vague angoisse que les crépuscules ne donneraient jamais sur terre, même dans les lieux les plus funèbres. Et ces deux pauvres bœufs, créatures de prairies et d'herbages, plus dépaysés que les hommes dans ces déserts mouvants, n'ayant pas comme nous l'espérance, devaient très bien, malgré leur intelligence rudimentaire, subir à leur façon l'angoisse de ces aspects-là, y voir confusément l'image de leur prochaine mort. Ils ruminaient avec des lenteurs de malade, leurs gros yeux atones restant fixés sur ces sinistres lointains de la mer. Un à un, leurs compagnons avaient été abattus sur ces planches à côté d'eux. Depuis 2 semaines environ, ils vivaient donc plus rapprochés par leur solitude, s'appuyant l'un sur l'autre au roulis, se frottant les cornes par amitié. Et voici que le personnage chargé du service des vivres, celui que nous appelions à bord le maître commis, monta vers moi sur la passerelle pour me dire dans les termes consacrés « Capitaine, on va tuer un bœuf !» Le diable l'emporte, ce maître commis. Je le reçus très mal, bien qu'il y eût absolument pas de sa faute. Mais en vérité, je n'avais pas de chance depuis le commencement de cette traversée-là. Toujours pendant mon quart, l'abattage des bœufs. Or, cela se passe précisément au-dessous de la passerelle où nous nous promenons, et on a beau détourner les yeux, penser à autre chose, regarder le large, on ne peut se dispenser d'entendre le coup de masse frappé entre les cornes au milieu du pauvre front attaché très bas à une boucle par terre, puis le bruit de la bête qui s'effondre sur le pont avec un cliquetis d'eau. Et sitôt après, elle est soufflée, pelée, dépecée. Une atroce odeur fade se dégage de son ventre ouvert et alentour, les planches du navire, d'habitude si propres, sont souillées de sang et de choses immondes. Donc, c'était le moment de tuer le bœuf. Un cercle de matelots se forma autour de la boucle où l'on devait l'attacher pour l'exécution. Et les deux qui restaient, on alla chercher le plus infirme, un qui était déjà presque mourant et qui se laissa emmener sans résistance. Alors, l'autre tourna lentement la tête pour le suivre de son œil mélancolique, et voyant qu'on le conduisait vers ce même coin de malheur où tous les précédents étaient tombés, il comprit. Une lueur se fit dans son pauvre front déprimé de bête ruminante, et il poussa un beuglement de détresse. Oh, le cri de ce bœuf! C'est un des sons les plus lugubres qui m'ait jamais fait frémir, en même temps que c'est une des choses les plus mystérieuses que j'ai jamais entendues. Il y avait là-dedans du lourd reproche contre nous tous, les hommes, et puis aussi une sorte de navrante résignation. Je ne sais quoi de contenu, d'étouffé, comme s'il avait profondément senti combien son gémissement était inutile et son appel écouté de personne. Avec la conscience d'un universel abandon, il avait l'air de dire « Ah oui, voici l'heure inévitable arrivée. Pour celui qui était mon dernier frère, qui était venu avec moi de là-bas, de la batterie où l'on courait dans les herbages. Et mon tour sera bientôt, et pas un être au monde n'aura pitié, pas plus de moi que de lui. Oh, si, j'avais pitié. J'avais même une pitié folle en ce moment. Et un élan me venait presque d'aller prendre sa grosse tête malade et repoussante pour l'appuyer sur ma poitrine, puisque c'est là une des manières physiques qui nous sont le plus naturelles pour bercer d'une illusion de protection ceux qui souffrent ou qui vont mourir. Mais en effet, il n'avait plus aucun secours à attendre de personne, car même moi qui avais si bien senti la détresse suprême de son cri, je restais raide et impassible à ma place, en détournant les yeux. À cause du désespoir d'une bête, n'est-ce pas? On ne va pas changer la direction d'un navire et empêcher 300 hommes de manger leur ration de viande fraîche. On passerait pour un fou, si seulement on y arrêtait une minute sa pensée. Cependant, un petit gabier, qui peut-être lui aussi était seul au monde, et n'avait jamais trouvé de pitié, avait entendu son appel, entendu au fond de l'âme comme moi. Il s'approcha de lui et, tout doucement, se mit à lui frotter le museau. Il aurait pu, s'il y avait songé, lui prédire « Ils mourront si tous, va, ceux qui vont te manger demain. Tous, même les plus forts et les plus jeunes, et peut-être qu'alors, l'heure terrible sera encore plus cruelle pour eux que pour lui, avec des souffrances plus longues. Peut-être qu'alors, il préférerait le coup de masse en plein front. » La bête lui rendit bien sa carcasse en le regardant avec de bons yeux et en lui léchant la main. Mais c'était fini. L'éclair d'intelligence qui avait passé sous son crâne bas et fermé venait de s'éteindre. Au milieu de l'immensité sinistre, le navire l'emportait toujours plus vite, dans les embruns froids, dans le crépuscule annonçant une nuit mauvaise, et à côté du corps de son compagnon qui n'était plus qu'un amas informe de viande pendue à un croc, il s'était remis à ruminer tranquillement le pauvre bœuf. Sa courte intelligence n'allait pas plus loin. Il ne pensait plus à rien. Il ne se souvenait plus.